Monsieur Windisch, alors pour cet éclairage UV, nous avons pour commencer Pascal Bernheim, humoriste, qui a voulu faire un billet sur Zemmour en l'accusant d'être haineux, mais d'une violence plutôt rare.
Oui, alors écoutez, ça date donc d'il y a quelques heures seulement, ce matin. Alors, je n'ai pas compris ce que c'est que cette intervention de Pascal Bernheim, si c'est un billet ironique, satirique, de l'humour, mais il me semble qu'on est face à une situation qui dépasse l'entendement. Pascal Bernheim dit de Zemmour, qui a eu un grand succès à Infrarouge, qui a mis en quelque sorte KO les habituels journalistes agressifs, au point où une personne qui a fait un commentaire sur notre site dit que Zemmour était face à deux... je crois que c'était deux pingouins et trois pintades, mais enfin, passons. Pascal Bernheim dit de Zemmour, tenez-vous bien, que c'est un petit marchand de venin, je cite de mémoire, mais c'est très proche, qui défèque par la bouche comme les nasillons de base. Des idées qui empestent la fiente marron, toujours, évidemment, comme les nasillons. Alors, on peut se demander, évidemment, où est la haine? J'ai rarement vu une telle haine. Mais sans doute, ces journaleux sont-ils jaloux du succès de Zemmour et d'avoir enfin quelqu'un qui a un discours différent de la gauche, de la bien-pensante et du politiquement correct, ce que tous les téléspectateurs souhaitent depuis longtemps, une pluralisation des interventions. En plus, il a l'air très fier de son intervention. Et vous savez, nous sommes obligés de payer la redevance pour entendre cela, si on doit quand même écouter aussi un peu les informations. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé ces temps, personne n'a réagi. La télévision a dépensé 5 millions pour rénover le studio du téléjournal. 5 millions ! Était-ce vraiment indispensable quand on imagine qu'avec ces 5 millions, on pourrait, par exemple, financer 5 ou 10 sites d'informations pluralistes, différentes, antipolitiquement correctes, qui pourraient fonctionner pendant 5 ans avec 100 000 francs chacun, et cela en apportant véritablement d'autres types d'informations. Donc, voilà à quoi on en est réduit, le genre de choses qu'on doit entendre, je trouve qu'il y a quand même un certain degré de gravité. Si c'était l'humour, passerait encore. Mais là, comment peut-on tolérer cela?
Ensuite, nous avons la venue de Pierre Cassan pour l'UDC Valais à Savièse, qui a fait des émules parce qu'une fois, il a été condamné pour islamophobie par les lois plutôt bolcheviques antiracistes.
Alors écoutez, vous y allez fort vous aussi. Donc Pierre Cassan a fondé le site français Riposte Laïque, qui est en fait hébergé en Suisse car persécuté en France. Et ils font une critique régulière de l'islam. Et bien sûr que nos médias ont dit à la suite de son intervention qu'on avait un exemple d'islamophobie, qu'il était évidemment d'extrême droite, alors que ça fait des années qu'il nous alerte, qu'il nous montre que si l'islam peut être religion de paix et d'amour, elle a aussi un autre volet dont on voit aujourd'hui les actualisations par des égorgeurs, des décapiteurs, des viols de masse, qui eux-mêmes se revendiquent de l'islam, et c'est bien un volet qui existe aussi dans le Coran. Donc, au lieu de prendre acte qu'il y a là un nouveau danger, eh bien, on parle de nouveau d'extrême droite, d'islamophobie. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on peut tout dire de notre religion chrétienne. Des chrétiens, on devrait parler de christianophobie quand on voit tout ce qu'il y a comme critique, blasphème et persécution des chrétiens, on ne parle jamais de christianophobie. Et n'oublions pas qu'en Suisse, on commence à prendre conscience qu'il y a bien au moins deux islams, si on veut le prendre comme ça. Qui aurait pensé il y a quelques années qu'il y aurait des djihadistes de Suisse? Que voit-on ces jours ? La Weltwoche qui publie un reportage avec un peu d'ironie sur le Coran doit être gardé par la police car il y a des menaces de mort contre les rédacteurs. On manifeste à Fribourg, malgré l'interdiction, on manifeste quand même. Que fait-on des prêches extrémistes dans les lieux de prière musulmans ? Tout cela est minimisé. Or, l'occasion d'une venue comme celle de Pierre Cassan pourrait aussi être un réveil, un grand réveil, une prise de conscience qu'il y a là un vrai danger et qu'on ferait bien de voir tout cela de près avant d'avoir des surprises aussi terribles que ce qu'on voit aujourd'hui en Irak et en Syrie.
Vu que les politiques sont systématiquement désavouées, ils attaquent d'ailleurs aussi la démocratie directe, dont un texte de Judith Maillancourt dans 24 heures qui traite la démocratie d'arme de destruction massive.
Alors écoutez, là, on dépasse aussi apparemment l'entendement. Imaginez un instant notre système politique de la démocratie directe. Une journaliste, pourtant au courant de ce qui se passe à Berne, elle nous dit qu'à Berne, on a peur des résultats des votations demain dimanche, et elle-même dit que la démocratie directe devient une arme de destruction massive. Mais on se demande véritablement ce qui se passe dans la tête de ces personnes. Est-ce que c'est parce que tout à coup, ce monde journalistique et des médias est en décalage total avec la population? C'est pas du tout au sens où la population serait devenue irrationnelle, vous voyez tous ces termes émotionnels, voteraient de manière absurde. C'est des vrais problèmes qui sont posés par ces initiatives populaires, mais qui évidemment ne sont pas ceux d'une certaine élite ou alors carrément du monde médiatique, toujours politiquement correct, bien pensant, mais en arriver à de telles extrémités, il y a de quoi s'inquiéter. Cela dit, vous savez, on l'a bien dit sur notre site à plusieurs reprises, nous reviendrons constamment sur ces critiques, cette volonté de mettre en cause, voire de supprimer la démocratie directe, qui est une menace, c'est ça la vraie menace pour la Suisse et le système politique suisse. Eh bien, même le dit premier citoyen du pays, président du Conseil national, Stéphane Rossini, qui lui s'interroge sur la démocratie directe. Soyez sensible à l'euphémisme. Cependant, il dit quand même qu'il y a une dérive de la démocratie directe, devinez sous l'influence de qui ? Bien sûr, de Blocher et de l'UDC, dérive qui l'inquiète beaucoup. Et il va jusqu'à dire que la multiplication des initiatives populaires sont en train de bloquer les institutions, surtout lorsqu'on doit développer des initiatives de mise en œuvre. Mais c'est bien parce que les élites ne veulent plus tenir compte des problèmes qui préoccupent la population. Si le pouvoir politique s'occupait sérieusement des problèmes, et ce qu'on ne comprend pas, c'est que par rapport à il y a 20 ou 30 ou 40 ans, les problèmes aujourd'hui s'aggravent, deviennent plus importants, deviennent insupportables. On sent un bouillonnement dans la population. Donc, si les autorités ne réagissent pas de manière claire, nette et déterminée, il y aura bien sûr davantage d'initiatives et ce n'est évidemment pas dû aux obsessions, à la démagogie, au marketing politique d'un parti politique. Dans la même veine, voyez-vous, un autre citoyen important, du moins symboliquement, et qui ne sont bien sûr pas nommés pour l'incompétence, mais parce qu'on appelle le tournus politique, le président, cette fois, du Conseil des États, le socialiste également socialiste, donc Claude Hesch, nous dit qu'il y a trop d'initiatives. La faute à qui ? Devinez, la faute au Parlement, au fait qu'il a peur d'invalider des initiatives qui pourtant devraient être invalidées. Et pourquoi le Parlement n'oserait-il pas invalider des initiatives ? De nouveau, La faute est à l'UDC. Le Parlement serait tétanisé par l'UDC, alors que aussi bien les politiques que les médias passent leur temps à critiquer ce parti politique qui pourtant, quoi qu'on en pense, justement essaye de relayer les problèmes qui préoccupent vraiment la population suisse. Et personne, aucun parti politique au monde ne pourrait vivre, se développer, se structurer sur la base de faux problèmes. C'est que les autres partis et la majorité des acteurs politiques, encore une fois, ne s'attaquent pas aux vrais problèmes qui préoccupent la population. Espérons que ce changement viendra bientôt, mais j'avoue que je suis un peu pessimiste.
Oui, d'ailleurs, c'est pas certain, vu que maintenant, la gauche, à force d'être désavouée, souhaiterait maintenant introduire l'adoption pour les couples homosexuels.
Écoutez, là, on touche un autre problème, et qu'il faudra que nous reprenions en détail. C'est en fait une espèce de lobbying incroyable, permanent, constant, de certaines minorités, dont par exemple le milieu auquel vous faites allusion, les homosexuels, mais maintenant on parle de LGBT, voyons, lesbiens, gays, bi, tri, je ne sais combien.
Transsexuels.
Que ces problèmes existent, mais voyez, ils sont constamment à la une de l'agenda politique, ils font un lobbying invraisemblable et les médias se réjouissent de relayer cela. On respecte tout le monde, mais ce dont certains acteurs ne se rendent pas compte, c'est que ce lobbying constant, permanent, insupportable, crée des effets contraires. Et cela se ressentira dans la population. Il est clair que si initiative populaire ou référendum il y a sur certains de ces sujets, la réaction de la population sera virulente. Évidemment, on parlera de nouveau d'extrême droite, de tout ce que vous voulez, alors que simplement, le citoyen courant, normal, quotidien, est tout à fait ouvert, tolérant et pluraliste, mais commence à être allergique à cette dictature des minorités, à ce lobbying incessant de forces qui sont, je le répète, entièrement et strictement minoritaires. Quand la majorité silencieuse, eh bien, en Suisse, elle peut se réveiller, certes, lors des initiatives populaires, mais je crois qu'il devient important que les avis de monsieur et madame tout le monde se fassent davantage connaître. C'est un défi pour les médias. Et s'ils ne le font pas, eh bien, le fossé entre les médias et la population va s'accroître et ils prendront encore de temps en temps des claques comme l'autre jour, à infrarouge.
Oui, à croire que la philosophie politique consensuelle s'écarte dangereusement du bon sens. Et puis peut-être encore un mot sur la grève préventive à Genève.
Il est vrai que là aussi, vous voyez, on assiste à un changement total du climat politique. C'est comme si, ça a été dit, on voulait tout à coup imiter la France. Mais imaginez un peu, en Suisse, on a toujours cherché au nom de la paix du travail, qui est pour beaucoup dans la prospérité de la Suisse. On a essayé de discuter, de négocier. Là, on en est à la grève préventive. Et lorsque des travailleurs de pays étrangers voient nos salaires, et les salaires même des couches ouvrières, populaires et employées, ils sont absolument sidérés. Donc, ce que je dirais, c'est qu'on ne comprend pas que certaines mesures initiées par des exaltés, qui sont davantage mus par une idéologie, eh bien, vont produire des effets contraires. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne savent pas ce que veut dire provoquer des effets boomerang, durcir la population, et cela n'est jamais très bon, parce qu'effectivement, dans ces situations-là, les forces extrêmes, voire extrémistes, prennent de l'ampleur, et cela est tout sauf réjouissant, dans un pays qui a réussi à gérer les problèmes de manière généralement tout à fait pacifique.
Oui, encore quelque chose qu'on utilisera pour nous dire que les travailleurs suisses ne veulent pas travailler et puis pour justifier l'immigration. Je vous remercie, Monsieur Windisch.